Purtroppo, ma anche perché questi ucchietti rappresentati nell'idea dell'anima, della parola di Dio. Et cet enseignement va être achevé dimanche, lors du culte, avec le thème sur la puissance de la parole de Dieu. Un avantage majeur à ce qui est l'enseignement mercredi, c'est un accroissement considérable du niveau de connaissance de la parole pour les fidèles, du niveau de croissance spirituelle pour les fidèles qui ont compris qu'il y a un appel et qu'il leur faut être à la hauteur de l'appel, et le niveau de descente des grâces, des bénédictions et des onctions. Lorsque on a un enseignement comme celui-ci, qui est des manifestations de puissance ou pas, parce que certains ont fini par croire que Dieu est seulement là à travers les manifestations de puissance, qui est manifestation de puissance ou pas, Dieu est là, et il est vraiment là, pas sur la forme, mais vraiment dans le fond. Mais je vais même vous amener à une mesure de prudence, parce que j'ai déjà eu des problèmes dans ce ministère il y a bien longtemps, parce que beaucoup de gens ne réalisaient pas que quand on envoyait quelque part, c'est que Dieu est là. C'est une mécanique qui va au fait, avec le fait que l'envoyé du Dieu créateur représente Dieu. Il y a des gens qui avaient des problèmes de discipline, ce n'est pas dit les gens qui souffraient d'indiscipline. Et le Seigneur leur disait que comment pouvez-vous vous comporter ainsi en ma présence? N'avez-vous pas compris que si m'en envoyé assis quelque part, c'est que je suis assis. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de voir la gloire de Dieu pour savoir que Dieu est là. Parce que de toute façon, il y a un autre principe élémentaire qui est la base. C'est que Dieu est en tout, Dieu est partout. Je vais commencer par vous raconter une insolite. C'est quelqu'un qui a l'habitude de me voir à la télé. Il m'a trouvé aujourd'hui dans un salon de coiffure. Quand il me voit, il me dit là, vraiment, vous, il faut que je vous parle. Vraiment, depuis que vous voyez à la télé, il vient s'asseoir là à ma droite et il me dit, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre que certaines personnes soient cohérentes, qu'elles soient objectives, et qu'elles se permettent après d'avoir été montrées qu'elles sont cohérentes, objectives. Elles viennent parler de Dieu après. Ça ne demande pas ça. Ça n'a pas de sens. Il a lancé le débat, donc lui il est à l'aise, il sent que là, il vient de me toucher. Il vient de me pointer. Lui il dit en fait, c'est à cause de l'éducation que vous avez reçue. Vous savez, l'éducation est un élément de socialisation, mais elle peut être un facteur incroyable de sécurité mentale. Non, je ne voulais pas lui montrer l'homme de Dieu d'abord. Je suis d'abord allé régler le problème en tant qu'intellectuel. On a fait ça, amener le sujet. Et vous savez, l'éducation peut vous aider à prendre conscience du réel, mais elle peut aussi vous sortir de la réalité et limiter votre compréhension de ce qui est possible. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que Dieu est en tout et Dieu est partout. L'erreur dans l'éducation que vous avez reçue, c'est de croire que vous pouvez amener Dieu hors de la vie d'un être humain. Il y a des compartiments de la vie de l'être humain où Dieu n'existe pas. C'est impossible. Dieu est partout et il est en tout. Si vous lisez maintenant, Proverbe 1, verset 7, vous qui parlez des scientifiques qui sont cohérents, c'est une autre absurdité de vouloir faire science sans Dieu. Qui est le premier scientifique? C'est Dieu. La science commence par la crainte de Dieu. Si vous avez un voisin qui vit en Côte d'Ivoire, qui a renchéré en lui disant que je dirais même mieux. Le problème, c'est que les gens qui enseignent les choses comme ça veulent modifier la génétique. Dans les gènes même, on doit reconnaître que c'est Dieu. Quand tu vas changer ce que Dieu a établi, c'est la maladie que tu as attrapée. Et pas la maladie, génétique, on ne traite pas ça. Parce que c'est quelqu'un. Dès que l'homme veut aller changer ce que Dieu lui-même a établi, tout se gâte. Et c'est irréparable à partir du moment où il a fait ça. Il a dit que l'homme a affaire. L'homme qui est venu sentir qu'il va me pointer. A fait des commentaires, il dit, vous savez, vous me voyez comme un scientifique, vous avez raison. Vous pensez que je suis un intellectuel, vous avez raison. Mais je ne sais pas si vous allez justifier qu'un homme de Dieu, scientifique et intellectuel, a écrit dans six disciplines. Ça vient de Dieu ou vient de mon intelligence? Non, j'ai déjà écrit dans six disciplines universitaires. Vous croyez que c'est avec mon intelligence que j'ai fait ça? Sa réaction dans les 60 secondes qui suivaient, c'est que, excusez-moi, j'arrive. Les enfants disent souvent au café, il a peine. C'est bien. Tout le monde arrive parce que dans le salon de coiffure, là, ils sont habitués au débat. C'est un salon qui est là, bref, quoi. On sait qu'il y a beaucoup d'intellectuels, de politiciens, d'hommes d'affaires qui aiment se coiffer là-bas. Donc, ça touche souvent là-bas, hein. Regarde. Je vais faire ça depuis ces 3 ans. Il y a souvent des débats. Les gens disent que, comme la voit souvent là, on voit souvent docteur à la télé, je pense qu'en confrontation, là, ça va être dur. Bon, en fait, il y a quelque chose de très important que nous allons commencer aujourd'hui. Cette beauté particulière de s'investir encore plus qu'avant dans la parole de Dieu. Parce que quelqu'un m'a encore rappelé ça. Le voisin me disait une chose que j'écoutais avec beaucoup de plaisir. Il me disait que mais, c'est quand même incroyable. Quand quelqu'un veut faire les choses sans Dieu, au commencement étant la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et il a dit, tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Il dit que mais ça, au moment où on enlève le fait que Dieu soit partout et en tout. Parce que sans Dieu, rien ne dit. Comment ils font même, ils me disent comme ça que donc t'as lui, il est mathématicien, ils font comment vous pensez qu'ils peuvent faire leur séance sans Dieu. Plus vous allez entrer dans la parole, plus vous allez étudier la parole, plus vous aurez Dieu en vous, et plus Dieu sera dans votre vie. Et c'est une nourriture incomparable. Je suis heureux depuis que je sais qu'on doit faire les enseignements 2 fois par semaine ou le d'une seule fois. Parce que c'est une double occasion de se nourrir. Une double occasion de devenir heureux. Une double occasion de s'enrichir. Une double occasion d'être puissant. Une double occasion d'avoir les clés à toutes les portes. D'avoir les solutions à tous les problèmes. Et dans tous les ministères sérieux, c'est comme ça. Il y a 2 enseignements au minimum par semaine. Parce que la parole est la priorité absolue. Vous connaissez la parole. Et la parole vous affranchira. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental que nous sommes en train d'amorcer. C'est la joie du partage de la parole en un jour supplémentaire dans la semaine. Surtout avec le plaisir de savoir que le mercredi, on n'a que ça. On n'a pas de cérémonie ou de protocole. Donc, on peut tenir 1h30 et puis on s'est déjà séparé. Donc, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. On va parler d'abord de la nature de la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, l'expression la parole de Dieu, également appelée parole du Seigneur, ou simplement la parole, elle fait référence à diverses situations. Premièrement, il est évident que cela se réfère d'abord à tout ce que Dieu a déclaré directement quand on parle de la parole de Dieu. Quand Dieu s'est adressé à Adam et Ève, ce qu'il leur a dit, n'est-ce pas, constituait la parole de Dieu. De même lorsqu'il s'est adressé à Abraham, à Jacob, à Moïse. Je voudrais qu'on lise ensemble ces déclarations qui sont assez intéressantes et qui nous permettent de voir que dans la Bible, il y a des déclarations directes que Dieu fait à ses doigts, à ses prophètes. On va regarder Genèse 2, le verset 16 à 17. Genèse 2, le verset 16 à 17. Genèse 3, le verset 9 à 19. Je vous donne d'abord les références. Genèse 2, le verset 16 à 17. Genèse 3, le verset 9 à 19. Genèse 2, le verset 17, 16 et 17. Genèse 3, le verset 9 à 19. Genèse 12, le verset 1 à 3. Genèse 26, le verset 1 à 5. Genèse 26, le verset 1 à 5. Et Genèse 28, le verset 13 à 15. Disons donc que quand Dieu s'est adressé à Adam et Ève, et qu'il leur a dit, ce qu'il leur a dit constituait la parole de Dieu. De même, lorsqu'il s'est adressé à Abraham. Vous allez voir, pour certains, ils vont vous parler d'Abraham, qui veut dire Ibrahim, Dieu dans son cœur. On n'est pas à cette problématique aujourd'hui. On va aussi lire ce qu'il a dit à Isaac, lire ce qu'il a dit à Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Et à Moïse, on ne va pas lire parce que c'est trop long. Mais Moïse, c'est, vous allez noter ça pour vous-même. Exode 3 et 4. Commençons par la lecture de Genèse 2, verset 16 à 17. Et Genèse 3, le verset 9 à 19. Pour ce qui a été dit à Anna et Ève. La parole à celui qui a la Bible sur les yeux.
Genèse 2. L'Éternel Dieu fait œuvre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu
mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui, ça c'est un arbre qui est dans Genèse 2, verset 16 à 17. Continuons.
Genèse 3, verset 9 à 19. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière où tu as été pris. Amen.
Alléluia. Bien. Plusieurs enseignements dans ce passage qu'on a lié, parce que je voudrais y aller étape après étape pour visualiser. Parce que quand on lit tout comme ça, il y a tout un encodage qui est caché derrière. D'abord, Adam et Ève ne découvrent qu'ils sont nus que quand ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, ça n'est pas que c'était, ça n'est pas ce que ça signifiait. Il était gentiment nu, comme les vers étaient, et ça posait aucun problème. Il n'avait pas conscience de ce que c'était la nudité. Quand il mange le fruit de l'arbre défendu, qui est un fruit qui les amène à un certain nouvel état de conscience qu'il n'avait pas avant, des sentiments qui n'existaient pas chez eux apparaissent. Premier sentiment, la peur. Parce qu'il ne faut même pas douter ça. D'abord, la peur. Anna et Ève n'avaient pas peur de Dieu. D'où bien qu'ils aient subitement. Deuxième état, conscience d'être nu. Si vous aviez vous étiez nu, ce vocabulaire n'existait pas chez Adam, qui a vécu on ne sait pas combien de temps dans une cohabitation parfaite avec Dieu. Lui, il ne savait pas qu'il était nu. Il ne savait pas que quand il dit être nu ou être habillé. Troisième élément, c'est un temps que je suis en train de faire ici le commentaire, c'est un temps qui est intéressant. Quand on demande à Adam pourquoi tu as mangé le fruit, première réaction est la cuisse de Dieu. Oui, il l'accuse. Il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, il manquait seulement à Dieu, il dit que donc c'est de ma faute. Comme toi tu as mangé le fruit là. Maintenant, il y a une série de conséquences. Première conséquence, la punition sur le diable. Il marchera, ton ventre sera désormais au sol. Ça veut dire que le serpent avant avait des failles. Il ne rampait pas. Deuxième conséquence, Dieu augmentera les douleurs dans l'enfantement. Ça veut dire qu'avant, les femmes n'auraient jamais eu de problème pour accoucher. Ça devait être aussi, il y en a que respirer. Troisième conséquence, la malédiction de la terre pour l'homme. Ça veut dire que ce que nous voyons là quand on fait la culture, etc., en réalité, ça devrait être plus simple avant, pour que les fruits poussent, les arbres poussent, etc. À cause du fruit défendu que nous avons mangé, à cause du péché originel, tout est devenu pénible pour l'homme. C'est une malédiction. Une série de conséquences. Et c'est la parole de Dieu. Mais qu'il a dit, c'est déjà que la parole est vivante. Dès qu'il a dit, dès qu'il dit comme ça, c'est fait. Dieu a agi à travers la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Donc Dieu a toujours agi, créé par la parole, béni par la parole, maudit par la parole. Il faut faire très attention à partir de là. Vous comprendrez l'esprit de l'enseignement de l'autre jour quand vous étiez en train de plaisanter et que quelqu'un dit qu'il veut maudire le diable et sa grand-mère. Je vous ai dit que moi, pour la compréhension que j'ai de la parole, je préfère utiliser des paroles idées. Parce que je veux être sûr que si je maudis le diable, je ne vais pas le louper. Si on cherche sa grand-mère, je ne vais pas la trouver. Parce que j'ai connaissance de ce que la parole est vivant. Et c'est la parole de Dieu que j'utilise en tant qu'envoyé. Donc mes propos doivent être justes quand je veux résoudre un problème, protéger les brebis, protéger le peuple, ou bien punir par l'autorité de Dieu l'ennemi qui nuit aux brebis. S'il est en captivité, s'il les tient, n'est-ce pas, sous l'oppression. Il y a d'autres enseignements qui sont intéressants dans la foulée de ce que nous avons à lire. Prenons un peu ce qui a été dit à Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Nous allons aussi prendre ce qui a été dit à Isaac, qui est son fils, l'enfant de la promesse. N'est-ce pas? Avant Isaac, il y a un qui s'appelle comment? Ismaël. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 26, verset 1 à 5. Donc, d'abord, regardons ce que Dieu dit à Abraham. Et après, on va regarder ce qu'il dit à Isaac. Et enfin, on va regarder dans cette partition-ci ce qu'il dit à Jacob. Donc, Genèse 12, verset 1 à 3, Genèse 26, verset 1 à 5, et Genèse 28, verset 13 à 15.
Genèse 12, verset 1 à 3, verset 5. L'Éternel dit à Abraham, rentre de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen.
La promesse qui est faite à Abraham est extraordinaire, mais avant la promesse, il y a quelque chose qui ne peut pas louper. Abraham reçoit un ordre direct, une instruction de Dieu. Sors de la maison de ton père. Va. Abraham pouvait rester comme ça pour dire que c'est bien. tu me cherches même quoi. Ici, là où tu vas bien, tu as un problème ici. Abraham ne savait pas où Dieu l'envoyait. Et là, vous devez comprendre le principe de la foi. Faire confiance à Dieu. Abraham ne savait pas où Dieu l'envoyait. Il a justement de sortir. Ah. C'est très important de comprendre cette séquence avant de regarder les problèmes. Si Abraham n'avait pas confiance en Dieu, il n'aurait pas pu sortir et partir. Je pense pour aller où? Je vous ai dit ici dernièrement que c'est là où on voit, on comprend la marche de Dieu. Vous n'avez pas à vous poser la question du comment. Le comment appartient à Dieu. Dieu t'a promis une chose, tu dis oui. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Oui. Ok, continue alors. Vous restez. Oui.
Il a dit que c'est une loi et moi. C'est un comment. C'est un bon sujet là. C'est bien un mais.
Il n'y a pas de mais. Il t'a dit quoi? Que ne t'inquiète plus. Il t'a dit quoi? Ne te préoccupe plus des questions du manger et du vêtement. Il t'a dit quoi? Tu auras un enfant. Il t'a dit quoi? Tu vas te marier. Il t'a dit quoi? Tu vas payer l'école là. Il t'a dit quoi? Pourquoi tu commences à chercher comment? Tu sais quoi de te dire juste pour gérer le comment? Donc ne prenez pas la parole pour toi, premier livre, on traverse, nous aussi on a lu la Bible. Il faut décortiquer et comprendre. Moi, quand je fais une démonstration, nous sommes quel jour? Quand je fais une démonstration, lundi, quand j'ai validé le code, il dit que oui, j'ai Dieu. Il m'a fait une promesse. Là, il va faire comme mon petit oreiller. Retention du fond. Là, il est mariage. Non, rien n'est fait. Il faut que je me dise à ce ministère. Qui est mort, il aime faire un témoignage. Tout le monde va arrêter son cœur pour ça d'avoir pas fait. On va rien pas tout dire, c'est que le fond. Donc, le Père me fait une promesse claire. Il y a toute la cette semaine. Il me dit en vision que telle chose va se passer comme ça. Bon, il me donne des éléments, je donne des éléments. Je dis pas, il y a une vision, Dieu me parle, quelque. J'en parle à une seule personne. J'ai pas dit grand chose, j'ai pas fait le commentaire, parce que vraiment, les choses derrière, j'ai pas eu tout ça délicat. C'est lundi soir, quand j'arrive à Yaoundé. Tous les événements que j'ai prévus dans ma petite intelligence ont lieu. Et quand ça passe, un pied, si on coupe le son. Donc, c'est quand l'événement passe que les musulmans me rappellent que n'est pas que je savais dire. C'était une promesse et un dossier très sérieux. Mais, je devais commencer à dire que c'est ici, ces choses-là, vraiment. Et en même temps, il me restait quand même un mot. C'est-à-dire que je disais que, ouais, tu m'as promis ces choses, non. Mon Dieu, pour la laquelle j'essaie de réfléchir dessus, toi aussi. Même si moi, moi, ça me déstabilise. Rejoue le problème. Lui, il en a entendu quand il va rejouer le problème. Comment il a rejoué le problème? Il m'a rien dit. Ce qui va se passer, ça. Rejouer. Quand Dieu te fait une promesse, tant que tu es dans ses voies, il accomplit sa promesse. Abraham est l'un des, est le premier exemple parfait de cette compréhension-là. Que la parole de Dieu, il a déjà donné sa parole. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Prends confiance de ce qui marche avec toi. C'est que j'étais impressionné le lundi soir. C'est que comme la charge est importante, j'ai oublié de fêter. J'ai tellement dit dans mon cœur que bon, je suis claqué. Mais si je peux applaudir, vous m'avez les pieds, j'allais applaudir lundi soir. C'est ça, Dieu. Oh. Il t'amène dans le couloir de... et tu peux même pas savoir, tu seras grâce. Cette attraction, quand vous avez affaire à Dieu, je vous dis ça parce que beaucoup ne comprennent pas vraiment qu'ils ont affaire à Dieu. On a des phrases qu'on lâche souvent parce qu'on ne comprend pas la puissance et la mécanique. Nous avons affaire au maître du temps.
il est plus important. C'est nous qui détermine le temps et les circonstances. Si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu n'as aucune chance de t'en sortir. C'est pourquoi la parole, justement, rattrape le chrétien en rappelant que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. C'est une clé incontournable. Si tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu, à ta parole, tu ne t'en sortiras jamais. Comment il faut approcher, c'est que de tous les côtés, il faut approcher seulement sur la parole, sur de toute façon, on va aller. Que tout le monde me trouve inutile, ce n'est pas un problème. Je vais se rapprocher là. Même les yeux fermés. Même Dieu non, je n'ai pas toujours approché à la parole. Parce que j'ai compris ce principe-là, qui est vivant. Que Dieu a une parole, quand il t'a promis, qui va faire. Il y a beaucoup d'autres événements qui se sont passés en ma faveur, que je suis en train de comptabiliser financièrement. Moi, j'en parle pas, parce que de toute façon, j'en ai voulu. Mais ça se passe vraiment bien. Et beaucoup d'êtres humains passent à côté de la plaque. Parce qu'ils ne comprennent pas cette affaire-là. La marche avec Dieu n'est pas vraiment compliquée. Elle est simple. Elle est difficile parce qu'on parle d'un mauvais univers. Car il faut quitter toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises compréhensions même, pour entrer dans la compréhension simple de Dieu. Ça, c'est trop compliqué. Que vraiment. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Oui, c'est sympa. En même temps, il attend de nous la foi. Qu'on lui fasse confiance. Qu'on ait la ferme assurance de ce qu'on espère en lui. Mais c'est sa parole qui nous dit, parce que Dieu donne sa parole. Et si tu comprends pas l'importance de la parole, comme quelqu'un me disait que c'est un livre d'histoire, je viens dire que mon ami, la Bible ne peut pas être un livre d'histoire. Ce que je sais de la Bible, c'est que chaque mot, je dis chaque mot dans la Bible est vivant. Et je vais te dire, est vivant, c'est-à-dire qu'il agit. Ne laissez plus jamais personne vous dire que la Bible est un livre d'histoire. Et ne prenez plus rien. Comme la parole dit, la science c'est du bois, le bois le mauve. Tant que les gens n'ont pas compris que la parole de Dieu est vie et esprit, ils entrent dans le feu de bas. Quand Dieu t'a dit quelque chose, tu t'approches de ce point. Tu réfléchis ou pas? Tu vas te dire que, vraiment, Dieu a dit. Autre chose, parce que le chrétien me rappelle ça tout de suite. Beaucoup de gens, quand Dieu a déjà dit, ils sont restés en enfer longtemps, il y a un peu de problème. Ils n'étaient pas impatients. Dès qu'ils ont pas agi, ils deviennent impatients. Maintenant, Dieu a dit non. Tu étais dans la galère depuis 20 ans. Tu étais confortable de l'air. Le diable est beau au ballon avec un dans tous les temps. Dès que Dieu te donne une parole, dis-le comme maintenant. Tu as passé l'examen. Comment êtes-vous? Vraiment? Il faut que quelqu'un s'en occupe pour vous parler de la parole dans ses dimensions vivantes et dans ses dimensions d'adhésion. Et on vous enseigne la parole afin que vous fassiez un avec elle. Ce n'est pas seulement la pratiquer. Il faut faire un avec la parole. Voilà, c'est ce que ça a recommencé. Moi, je croyais que le coup allait, papa, aller à commencer à sortir la démonstration. Applaudissons pour le Seigneur. C'est quelques gens qui applaudissent fort comme ça, je voulais vérifier le chrétien. Mais, il y a les applaudisseurs et les applaudisseuses ici. Alors, nous avions Genèse 12, de 1 à 3. Quelqu'un a lu ça? On a aussi lu Genèse 26, de 1 à 5, et Genèse 28, de 13 à 15. Voilà, l'on dit. Genèse 26, de 1 à 5, et Genèse 28, de 13 à 15, c'est Isaac à qui Dieu s'adresse d'un côté, et Jacob à qui Dieu s'adresse de l'autre. Mais rappelez-vous que Jacob, c'est lui qui devient Israël. Voilà. Continuons. Genèse 26, de 1 à 5.
Genèse 26, verset 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays du sel de la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Isaac partit pour Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. À toi et à ta descendance, en effet, je donnerai cette terre et je tiendrai le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je ferai proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel. Je lui donnerai toutes ces terres et en elles se béniront toutes les nations de la terre. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. Amen.
Amen. Pour voir l'esprit de cette parole qui est extrêmement riche. Le Seigneur fait une promesse à Abraham. Nous vivons juste la promesse à Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham par l'alliance à Jésus-Christ. Parce que beaucoup ne savent pas cette transformation de la descendance matérielle à la descendance spirituelle. Par l'alliance à Jésus-Christ, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous vivons de la promesse qui a été faite à Abraham, parce qu'il a écouté la parole de Dieu, il a obéi. C'est un fils immédiat. Il vient renouveler la promesse de son père, à son père, et lui rappelle toutes les bénédictions qui vont l'accompagner. Que ne va pas de l'autre côté, mon fils. Voilà, il a attaché, reste la peine, je ne veux pas que tu souffres. Reste là où je vais t'indiquer. Et je vais te bénir. Tu auras l'abondance, tu seras fertile, et tu seras, et tu seras. Jacob qui vient après. Jacob, c'est la parole adressée à Jacob va de Genèse 28, verset 13 à 15. Si vous l'avez déjà repéré, vous faites la lecture.
Genèse 28, verset 13 à 15. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir vers cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit. Amen.
Intéressant, n'est-ce pas? Il fait une promesse à son grand-père. Il fait une promesse à son père. Lui vient faire la même promesse. Pour le fortifier. Dieu a toujours entretenu ses relations avec son peuple à travers la parole. Ta parole accompli. Elle est vivante. Dieu s'est également adressé à toute la nation d'Israël sur le mont Sinaï. Et ça, c'est un fait sans précédent parce que je ne sais pas si on a un autre fait de ce type dans l'histoire de la marche avec Dieu. Parce que, en fait, quand il a énuméré les 10 commandements, tout le peuple l'entendait. Tout le peuple l'entendait. Et ils entendaient la voix de Dieu jusqu'à ce qu'ils disent à Moïse vraiment. Qui cause là-bas avec toi, c'est parce que vraiment. La voix de Dieu était insupportable pour le peuple. C'était toujours comme si le tonnerre était en train de parler. Beaucoup de gens qui ont le don de prophétie dans ce ministère ont parfois ce sentiment. Que le tonnerre est en train de parler. Ça dépend, il y a deux formules qu'ils ont souvent. Soit, juste parce que ça s'entend de veille très souvent. Soit quand ils entendent l'envoyé parler. Ils entendent la voix du tonnerre, donc Dieu est en train de leur dire, c'est moi qui parle là-bas, à travers ce qu'ils entendent le tonnerre parler. Soit, ils entendent un message comme si c'était le tonnerre qui parlait dans leur poitrine. Mais imaginez ça en version amplifiée pour tout le monde, pour, je sais pas, 700 000 personnes quelque part. Tout le monde entend le tonnerre qui part. Parce que si j'ai déjà, s'il y a au moins 5 de mes enfants qui, à cause du don de protection, quand je suis en train d'enseigner à des phrases où ils entendent, ils sont capables de dire à un moment que là, ce n'est plus papa qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Parce qu'ils sentent la différence entre ma voix et la voix de Dieu. Et c'est le Seigneur qui fait ça pour leur montrer la symbolique de ce que quand il parle, c'est moi qui parle. Mais imaginez que tout un peuple, avec ça, et quand ils disent, je chante parole, c'est vraiment, ils ont dit à Moïse, qui pose la question, nous ramène. Cette histoire, c'est ça, parce qu'ils parlent, nous tous sommes tremblés, les pieds tremblent jusqu'aux cheveux, tout tremble dans ce mal. Qui pose avec toi là-bas. Et tu me dis ce qu'il a dit. Donc, en fait, lorsque les 10 commandements étaient énumérés par cette phrase, effectivement, le peuple entendait la voix de Dieu. C'était vraiment quelque chose sans précédent. Pour que nous entrions dans l'esprit de la parole, disons Exode 20, de 1 à 18. Exode, c'est le livre du sacré la Genèse. Exode 20, de 1 à 18.
Exode 20, de 1 à 18. Et je prononça toutes ces paroles. C'est moi le Seigneur, ton Dieu.
Je demande à tout le monde de se lever de ce passage. Le Rabbi Matthieu.
Et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi le Seigneur, ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole. Il n'y a rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, et sur la terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant les seuls dieux, et tu ne les serviras pas. Car c'est moi le Seigneur ton Dieu. Un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères sur les fils, sur trois et quatre générations. Tu me haïsses, mais pour moi ta fidélité a des milliers de générations, si elle-même est gardée les commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton œuvre. Mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'immigré que tu as dans tes vies. Car, en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il contient, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rape, tu ne témoins pas forcément contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain, et sur ton serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartient à ton prochain. Amen.
Amen. Ce que le peuple a attendu ce jour-là, c'était la parole de Dieu. Deuxième dimension, c'est que, en plus de ces discours directs, Dieu a également parlé par l'intermédiaire de ses prophètes. Lorsque ces derniers s'adressaient au peuple de Dieu, ils avaient l'habitude de commencer leur déclaration par l'expression « Ainsi parle l'Éternel ». Et dans ce ministère, le Seigneur continue à parler comme ça. Où la parole de l'Éternel ne fut adressée en ces mots. Ainsi, quand les Israélites écoutaient la parole des prophètes, c'était la parole de Dieu qu'ils entendaient. Troisième dimension où on voit la parole de Dieu, le même principe s'applique à ce que les apôtres du Nouveau Testament ont dit. Bien qu'ils n'aient pas commencé leur discours en disant « Ainsi parle l'Éternel », ce qu'ils déclaraient, ce qu'ils proclamaient était la parole de Dieu. Nous savons par exemple que la prédication de Paul à Antioche, de Titidi, où elle a fait des apôtres, le chapitre 13, de 16 à 41, on ne va pas lire ça, mais il faut noter. On sait que la prédication de Paul a créé beaucoup de moi en Dieu de Titidi. Et le sabbat qui suivait à cause de cette prédication, presque toute la ville s'était rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Acte 13, verset 44 le précise d'ailleurs. Donc Paul a dit aux Thessaloniciens qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Paul tient à ce que les uns et les autres se rendent compte que ce n'est pas de son propre chef qu'il parle, mais il enseigne mot pour mot sur la manière dont l'Esprit de Dieu parle en lui. Nous allons, pour vérifier cela, pour attester cela, lire 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, 1 Thessaloniciens 2, le verset 13, et Actes des Apôtres 8, le verset 25. 1 Thessaloniciens 2, verset 13, Actes des Apôtres 8, le verset 25.
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce temps recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.
Amen. Amen. Acte 8, verset 21.
Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen.
Amen. À quatrième dimension où on peut voir la parole de Dieu, c'est tout ce que Jésus a dit qui était la parole de Dieu. Étant donné que lui-même est Dieu. Parce que quoi? Quand vous regardez Jean 1, le verset 1 et le verset 18, vous voyez aussi Jean 10, le verset 30 et 1 Jean 5, le verset 20. On a la preuve dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est cette parole, que Jésus-Christ est Dieu. Et on peut lire ça, n'est-ce pas, pour nous rafraîchir la mémoire, que les uns et les autres aient des repères. Jean 1, le verset 1 et 18. Jean 1, le verset 1 et 18, je vous donne les trois références. Jean 10, 30. Jean 1, le verset 1 et 18. Jean 10, 30. Et 1 Jean 5, le verset 20.
Jean 1, le verset 1. Au commencement, il faut la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Que dit le verset 18?
Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître.
Que dit maintenant Jean 10, 30.
Moi et le Père, nous sommes un.
Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes très bien. Il faut bien comprendre l'esprit de la parole. Dans tous ces cas, pour comprendre l'unicité, la fusion qu'il y a entre la parole et Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est la parole créatrice. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est... Quand on dit ça, Jésus-Christ est la parole que Dieu a utilisée pour fabriquer tout ce qui est lui. Tout à dire que la parole d'une personne exprime sa pensée. N'est-ce pas? Si Jésus-Christ, qui est la parole, est la pensée de Dieu, est la parole créatrice, il est normal qu'il soit Dieu. Et la parole nous dit d'abord, d'ailleurs, au verset 14, nous n'avons pas lu ici, que cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc la parole de Dieu ne doit pas être prise à la légère en disant comment tu dis ta parole. Comme nous m'avons même dit n'importe quoi et tout, nous aussi on pense que. Oui, mais quand vous avez la dit n'importe quoi, cela exprime votre pensée et votre personnalité. Il y a une différence entre plaisanter et dire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont tellement travaillé à dire n'importe quoi, que leur vie est devenue n'importe quoi. Puisque, en permanence, ils prophétisent de choses incohérentes dans leur vie, ça finit par se matérialiser. Quand je vous dis, par exemple, n'ayez pas l'habitude de dire ça ne va pas, c'est parce que, quand vous dites ça ne va pas, vous déclarez cette phrase à faire pour tomber dans votre vie. Dieu ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi ou prononcer son nom n'importe comment. Vous pourriez vainement. C'est dit dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Parce que prononcer son nom, c'est quelque chose de vivant, le fait de prononcer le nom de Dieu. Beaucoup de gens ont évité la mort juste en disant Jésus-Christ. Juste ça. Jésus-Christ. Mais si tu as dit Jésus-Christ, même là où ce n'est pas écrit, qui va te reconnaître pour te regarder Christ? C'est quelle forme de désordre? Qui m'a appelé? Il m'a appelé pourquoi? Il y a quoi ici? De quoi s'agit-il? Vous comprenez la pertinence? Alors, utiliser le nom de Dieu uniquement quand cela est nécessaire. C'est vrai que tous les dangers ne sont pas visibles ou perceptibles. Mais c'est même parce que c'est dans les faux débats et les gens, les buveurs, tout là, tout ça là, et tous les drogués. Donc vous n'avez rien à dire d'important, vous commencez à dire Jésus-Christ. Comme ça pour rien, ça n'a même pas de place dans la conversation, ça n'aide à rien, ça ne résout aucun problème. Vous aussi vous prononcez le nom de Dieu comme ça. Parce que beaucoup souffrent ici dehors, ne sachant pas que Jésus-Christ est Dieu. Ça complique leur vie. Nous, quand on dit Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, on sait qu'on vient d'appeler le Dieu vivant à un instant et à un moment précis. C'est-à-dire qu'on vient de lui demander, juste en prononçant son nom, qu'il intervient, papa. C'est quelque chose là maintenant. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, ça, en terminant, j'ai lu un livre que quelqu'un a certainement lu ici, le livre d'Emmanuel Hennig, délivré des ténèbres, où il expliquait comment il était un grand sorcier, faisait le réunion et le diable, etc. Il a expliqué comment une femme l'a fait disparaître d'un taxi en disant le Dieu de Jésus-Christ. Il avait une bague maléfique. Il a touché la femme de la femme, elle s'est dit, mais Jésus-Christ. Il s'est retrouvé à des centaines de kilomètres de là où il était. Justement, quand on a dit Jésus-Christ l'a expulsé du taxi, on a seulement constaté qu'il n'est plus dans le taxi. Lui, il savait où il était atterri. La femme a seulement remarqué que, elle ne s'y exclamait Jésus-Christ, un démon est parti d'ici. Parce que quand il a touché la femme de la bague, elle a senti une mauvaise onde entrer dans son corps. Donc, ne prononcez pas les mots n'importe comment, les paroles sont vivantes. Lui qui est derrière l'auteur du troisième évangile déclare que, il dit explicitement que lorsque les gens entendaient Jésus-Christ, ils entendaient la parole de Dieu. Prenez comme référence Luc 5, le verset 1, qui vous permet d'attester cela. Luc est clair là-dessus. Quand ils entendaient Jésus, ils entendaient la parole de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Quand je relisais ça, j'étais très content de lire ça. Remarquez la différence entre la formule utilisée par les prophètes de l'Ancien Testament et celle qu'emploie Jésus-Christ. Au lieu de ainsi parler l'Éternel, des prophètes, Jésus-Christ dit, moi je vous dis. Voyez la différence. Quand on dit ainsi parle l'Éternel, Jésus-Christ dit, moi je vous dis, pourquoi c'est lui l'Éternel? J'aime les décodages de l'Esprit Saint. C'est agréable de voir les nuances. C'est très agréable de voir. Mais là où on a l'habitude de le citer, ainsi parle l'Éternel, la parole de Dieu m'a été révélée en ces termes. Quelqu'un arrive et vous dit, moi je vous dis. Comment il parle comme ça si ce n'est pas lui-même Dieu? Ce n'est pas possible. C'est la seule explication, c'est qu'elle est minime. Si il ne dit pas ainsi parle l'Éternel, il dit moi je vous dis. En d'autres termes, c'est moi qui vous parle de lui. Qui demande de dire ainsi parle l'Éternel, mais quand il a plus ainsi parle l'Éternel, moi-même je suis là. Je vous dis. Ça fait une différence majeure dans la manière dont la parole est prise. Et quand vous voyez dans Esaïe comment il finit de lui dire cette parole qui est accomplie. Mais comment? Même si vous lui disiez là que quelqu'un vient comme ça, vous m'auriez la chair de poule. Il parle de quoi? C'est une cassure. C'est une révolution. C'est un moment majeur. Il n'y a plus qu'on dit que Dieu a dit. Dieu lui ne est venu dire, moi je vous dis. Il n'y a plus une parole d'emprunt. Il n'y a pas à transmettre. Non. Moi, Jésus-Christ, je vous dis. Moi le Dieu vous enseigne. Moi l'Éternel qui vous parle de lui. On va voir l'enseignement ici qui est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Parce que comme certains n'arrivent pas à faire le lien, il y a des endroits où les gens ont le malheur de croire que l'Ancien Testament ne sert à rien. La partie la plus importante de la Bible ne sert à rien, quantitativement et qualitativement. Ah Dieu! Mais Jésus-Christ est dans l'Ancien Testament. Pourquoi c'est l'Éternel, c'est Dieu? Jésus-Christ est le nom que Dieu s'est donné pour venir racheter l'homme. Je vous dis ça comme le Christ me demande de vous dire ça. C'est le nom que Dieu, l'Éternel, s'est donné pour venir racheter l'homme. Lui a forgé une nouvelle alliance. Le annuler le péché originel. Lui redonner vie. Lui redonner accès à lui, Dieu. Comme au temps d'Adam et Ève. Adam et Ève prenaient leur route pour parler à Dieu, Dieu était là. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il vient, première chose, il annule le péché originel à travers son sacrifice. Parce que l'affaire-là était un des morts au ciel. Qui va verser son sang pour accepter l'homme? Parce que le sang des boucs ne peut pas accepter l'homme. Le sang des vaches ne peut pas accepter l'homme. J'ai analysé la situation à tous les cas, il a dit que rien que moi-même, je descends. Moi, je devrais verser mon sac. C'est sûr que même les anges, les archanges, qui faisaient la mission là, qui dit. Nous, pour sortir l'homme d'un péché grave, comme le péché original, il faut que le sang d'un homme soit versé. Pas le sang de la vache ou du mouton. Dieu a analysé que pour racheter l'homme, il y a une seule possibilité. Moi-même, je m'en vais me livrer. Qu'il me fasse ce qu'il pense bon aux autres prophètes. Il vient et fasse le péché originel. Emporte la victoire sur la mort. T'en vas en enfer à arracher les clés au diable.
Oui, parce que tout à l'heure, il faut que tu oublies ta mère. Tu te connais les pouces.
Non. Il s'en va en enfer. Tape le diable là-bas en aller-retour. Il dit que tu n'as même pas les prolongations. C'est moi qui t'ai fabriqué. Donc, aller-retour, c'est fini. Ils seront victorieux de l'enfer. Ils ressuscitent. Le diable a été étourdi parce qu'il ne savait pas que le terme ressuscité existe dans son vocabulaire. Il savait que quand on a tué un homme, c'est bon, il a baillé. Dieu lui a dit que voilà, alors les choses étaient là. Il a dit que qui ne dit pas que je suis l'alpha et l'oméga. C'est là où toi, tu prends ça, tu dis que moi, je commence alors les démonstrations. C'est comme ça que les enfants de Dieu ont une vie spéciale. Chaque fois que le diable pense qu'il t'a anéanti, c'est là où Dieu commence alors à faire sa démonstration. Quand il regarde le diable faire, tu as fini. C'est tout. Regarde alors le corrigé, tu as oublié qu'il t'a fabriqué. Il corrige ça. Du rouge. Il finit. Pim, il met le cachet. Suivant. Donc, pour comprendre l'esprit de cette chose qui se change comme ça, avant on disait ainsi par les ténèbres. Un homme arrive là, vous faites ce que vous voulez, et dit moi je vous dis, quelle autorité a-t-il pour parler ainsi? Pourquoi il ne dit pas ainsi par les ténèbres? La parole de l'Éternel m'a été révélée comme suivant. Et dit moi je vous dis, par qui est Dieu? Vous voulez comprendre ça ou pas? Il est Dieu. Il vient. Il balaye le péché originel. Il crée une nouvelle alliance. Il fait autre chose. Il rend Dieu disponible. Quand Jésus-Christ parle, il promet le consolateur. Le consolateur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu, dont l'Esprit Saint est Dieu. Avant Jésus-Christ, tout était matériel dans la relation à Dieu. Après Jésus-Christ, et ça c'est l'autre transformation, tout devient spirituel. Avant Jésus-Christ, le sacrificateur, on voyait quand quelqu'un était sacrificateur par la vie matérielle, physique. Après Jésus-Christ, tu vois, moi qui suis un homme de Dieu, vois-le spirituellement. Tu vois comment il a habillé. Quand tu confirmes le peuple, oui. Même s'il a un dernier, l'autre là, c'est un homme de Dieu. C'est la vie spirituelle qui prédomine, c'est la vie matérielle. Jésus-Christ rend l'Esprit Saint disponible. C'est-à-dire, au lieu qu'avant lui, comme ça se passait, quand on veut avoir le point de vue de Dieu pour une affaire, on voyage des semaines pour aller rencontrer un prophète. Désormais, tous ceux qui le cherchent véritablement, ils se laissent trouver. Parce que Dieu est disponible. L'Esprit de Dieu est disponible. Et Dieu peut dire à chacun d'entre vous ici présent, moi je dis, parce que c'est plus un qui parle, moi il te parle, c'est vrai, j'ai dit que mon fils, ma fille, moi je dis. Et vous pouvez discuter sur les petites choses, autant les problèmes des couleurs de chaussures que les beignets, le pain ou la coiffure. Il redevient le Dieu paternel de proximité, le complice permanent. C'est cet encodage qu'il faut traîner derrière cette capacité extraordinaire de Jésus-Christ. A dit moi, quand on disait ainsi par l'Éternel, il faut qu'il dise moi, je vous dis. Parce que, toi tu es qui pour dire que moi, toi es qui parle l'Éternel. Moi. Et que vous savez, quand on n'a pas la grâce, d'être nourri par le Saint. Il y a des choses, elle dit ça, mille fois. Un million de fois, vous n'avez pas compris. Les hommes s'attendaient à voir Dieu comment. Que comme on fait à peu près 1,5 m, 1,60 m, 70 m, que Dieu, en venant sur terre, qui soit dans les 3 mètres, m'a marché comme ça, quand il communique avec nous, on est toujours en bas. Non. Il s'est fait chair. Il a suivi le processus pour montrer le chemin. Il s'est fait chair pour qu'on voit qu'il est le chemin. J'ai fait comme vous. J'ai vécu au milieu de vous. Et je vous montre le chemin. L'exemple à suivre. Moi aussi, j'ai eu à naître, à grandir, à aimer, à protéger, à sourire, à pardonner. Et mieux que ça, j'ai opéré les miracles pour que vous voyez que vous pouvez aussi opérer les miracles. J'ai guéri parce que vous aussi vous devez guérir. J'ai enseigné parce que vous aussi vous devez enseigner. J'ai prophétisé parce que vous aussi vous devez prophétiser. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole dit encore qu'il est la lumière du monde. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a que la vie, le bonheur, la joie, les solutions, la quiétude, la paix. Vous êtes abondamment bénis.
Amen.
Vous n'imaginez pas que la joie que j'ai chaque fois fait à un enseignement. Je sens comment tout prend. C'est que la lumière du ciel descend encore, la quantité qui est versée en moi augmente encore parce que là, ce n'est plus moi qui enseigne. Les molécules de Jésus-Christ augmentent seulement. Parce que c'est des petites choses si importantes, si essentielles. Je marchais avec quelqu'un tout à l'heure, un de mes petits qui est là, qui disait qu'il a rencontré des gens qui ne veulent pas se signer, qui étaient ici, pour qui Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quelle perdition! Ils ne comprendront pas pourquoi il dit moi, je dis. Ils peuvent décoder l'endroit là. Ils vont comprendre pourquoi Jésus-Christ, l'homme disait ainsi par l'Éternel. Lui, il dit moi, je dis. Et quand il dit moi, il dit c'est force de loi. Il y a des gens qui veulent, ça me vient à l'esprit. C'est à cause de votre dureté de cœur que Dieu a béni à Moïse que vous refusiez vos pas. Mais moi, je vous dis, il corrige la loi.
Oh! Le diable est très mal barré. Ta peine est proche. Parce que là où on est là, le travail que Jésus-Christ a engagé sur cette planète pour reprendre totalement le contrôle de ta planète, lui à qui tout a été soumis, lui qui a reçu l'autorité jusqu'à la fin des temps, c'est quand la fin des temps aura lieu qu'il va remettre l'autorité à son père. Le diable est très très mal barré. Et depuis que le travail a commencé, le diable n'a eu que des défaites, lourdes défaites d'ailleurs. Parce que j'imagine le nombre de prophètes chargés des préfets que le Seigneur utilise sur cette planète à l'heure où nous sommes en train de courir. Des gens chez qui le feu et la lumière jaillent en permanence. Parce qu'ils sont avec le Père, ils sont en le Père. Et ils ont la grâce d'être dans des situations de fusion au fond, quand on les regarde, ce n'est même plus un homme qu'on voit, c'est Jésus-Christ qu'on voit. Mais qu'est-ce que vous croyez? L'onction, c'est quoi? C'est la capacité à revêtir Dieu. Oh, le Seigneur m'a montré à quelqu'un, dans une vision, il n'y avait que moi qui savais ça avant que la femme là me parle de ça. La femme me regarde comme ça, elle est en train de causer. Elle me dit que j'étais vu la nuit. Alors, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien.
Comment? J'ai dit que j'étais dans une grande salle. En fait, elle dit, moi, j'étais dans une grande salle devant. Et puis, j'ai dit, tu entrais. Et pendant que tu entrais, dès que tu entrais, les gens ont commencé à tomber de part et d'autre. Tum, 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 tum. Et une voix, grosse voix me dit, celui qui est mon fils, et il sera encore plus grand que ce que tu es. J'ai continué sa vision, parce qu'il n'y a qu'à moi que le Seigneur avait expliqué le scénario. Imagine, je vais te faire grandir à un tel niveau que l'intelligence de l'homme sera dépassée. Les gens seront étourdis. Imagine mon fils. tu vas arriver au stade quand tu entres dans une salle. On sait que tu es entré par le nombre de démons qui sont en train de sortir. C'est qui n'a pas besoin de prier. Donc quand tu entres seulement, comme je suis en toi, c'est le nom de Dieu, je me rends le rempli pour être dévoré. Quand tu entres seulement, on sent que tu es entré par les dégâts. Et donc c'est que oui, mon fils est entré. Le temps que tu arrives, je bats. Le diable souffre et décharge seul. Depuis qu'il m'a dit ça, moi je sais que, il n'y a pas de problème, il va passer les examens de papa, il n'y a pas de problème. Mais il a donné ça, il m'a donné ici. Vous savez, l'avantage quand on est en permanence dans la parole, c'est que, au fur et à mesure où vous vous attachez à la parole, tout ce qui est vraiment de Dieu, vous reconnaissez automatiquement, vous avez déjà la connexion, vous avez déjà la référence à l'intérieur. Même si les autres ne comprennent pas, vous savez quand quelque chose vient de Dieu. Parce que Dieu ne te donne pas une chose comme ça. Elle est liée à autre chose qu'il t'a déjà enseigné. Qu'il t'a déjà accordé. J'ai des situations parfois où quelqu'un parle. On vient me dire que non, ce n'est pas Dieu. Mais la personne ne sait pas que moi, j'ai suffisamment d'éléments pour reconnaître la parole de Dieu. À cause de tout ce que j'ai accueilli. Puisque l'autre parole de Dieu qui est en moi reconnaît la parole de Dieu comme apôtre. C'est pourquoi je suis en train de m'investir avec une joie inqualifiable à ce que cette parole soit votre partage. C'est la voie royale pour être en Dieu, pour être en Christ et pour avoir Christ pleinement dans tous les compartiments de votre vie, de façon à ce que la lumière soit partout en vous, autour de vous, dans vos compartiments de vie, quel qu'il soit, et que la lumière de Christ soit le rayonnement principal partout où vous êtes. Peut-être que je ne l'ai pas encore dit, mais je vous fais beaucoup confiance. Au fur et à mesure que le temps passe, je vous fais confiance. Malgré toutes les difficultés, les lourdeurs, je sais que chaque enseignement fait reculer les ténèbres dans vos vies. J'ai ri dans mon cœur de savoir ce que je vais enseigner dimanche prochain. Mais vous savez que il y a toujours une petite phase d'exhortation ou de causerie, je ne sais pas. Quand j'ai vu dans ma tête ce que je vais dire dimanche prochain avant l'enseignement principal, elle dit que ça, je vais prendre mon pied. Il y a une joie particulière que j'aurai à leur montrer les choses sur un angle qu'ils n'ont jamais entendu depuis leur naissance. C'est tout ça, ma voix se va aider comme ça. Chou, 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 chou. Moi, je suis éveillé, endormi, peu importe. Il envoie. Pour que vous soyez à l'aise sur les passages bibliques où Jésus-Christ prend autorité en tant que Dieu. Au lieu de dire ainsi parle l'Éternel, il prend autorité pour que les uns et les autres qui sont capables de comprendre se rendent compte que c'est Dieu qui parle, pas un homme. Voilà les passages. Matthieu 5, le verset 18, 20, 22. Matthieu 5, le verset 18, 20, 22. 32, 39. Matthieu 5, le verset 18. 20, 22, 32, 39. Ça, c'est la première séquence des versets liés à cela. Matthieu 11, le verset 22, 24. Matthieu 11, le verset 22, 24. Marc 10, le verset 15. Marc 10, le verset 15. Luc 12, verset 4. Luc 12, verset 4. Jean 5, le verset 19. Jean 5, le verset 19. Jean 6, le verset 26. Jean 6, le verset 26. Et Jean 8, le verset 34. Le temps que vous vous positionnez pour ces versets, les versets que vous avez lus signifient que Jésus-Christ, cet homme, avait en lui l'autorité pour annoncer la parole de Dieu. On saisit donc toute l'importance de l'écoute des paroles de Jésus. Quand on se rappelle qu'il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Lisez dans les différents versets que vous avez notés. On commence par Matthieu 5, 18, 20, 22, 32, 39.
Matthieu 5, 18, il est écrit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul de ça, ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Mais, oui, je voulais dire les deux. Mais puisque la parole est Dieu, Dieu ne veut pas disparaître. Tout peut disparaître, pas lui, pas sa parole. C'est une autre façon de commenter. Ça sonne d'une.
Veuve, il est écrit. Père, je vous le dis.
Si votre justice
ne dépasse celle des fils
et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.
Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens étaient coincés à une loi qui elle-même était obsolète, qui ne pouvait pas comprendre l'arrivée de Jésus-Christ, sa mission et sa présence. Qui ne peut même pas leur permettre de reconnaître Jésus-Christ comme étant Dieu, comme étant l'envoyé du Dieu créateur. Oui, Jésus-Christ était l'envoyé du Dieu créateur dans sa position. En tant que premier apôtre, en tant que premier prophète, en tant que sacrificateur. La parole de Dieu. Et ils ne pouvaient pas leur loi de leur permettre de comprendre que voilà celui qui est venu accomplir la loi, la parole est là. La justice l'a améliorée. La parfaite. Continue.
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin.
Évitez les insultes dans vos bouches, désormais. Ne dites pas que vous n'avez pas lu ça dans la parole. Est-ce qu'il y a les insultes de tout type? Il y a des gens qui n'ont pas encore sorti les insultes. Il n'a pas encore comparé à tous les animaux de la brousse. Il ne va pas se reposer. Ils ont toujours les insultes. Regarde sa tête comme, regarde ses pieds comme, regarde sa tête, ça n'a rien à voir. Et il s'énerve toujours, déborde, etc. Continue.
C'est que celui qui dira un pensée mérite d'être puni par le feu de la vie. 32, il est écrit.
Mais moi, je vous dis que celui
qui reste sous sa force, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. C'est que celui qui épouse une femme réfugiée commet un adultère.
Hein? Celui qui réfugie sa femme, si ce n'est pas pour infidélité, il commet un adultère. Et celui qui épouse une femme réfugiée commet un. Notez bien l'endroit là, parce qu'il y a plein de gens autour de vous qui ne savent pas ça. Il me l'a dit, il me l'a dit. Et dites-leur, parce que l'esprit que vous avez reçu n'est pas encore un esprit de peur ou de timidité. Dites-leur, quand quelqu'un veut partir, il dit comment on fait. Lisez les versets de lui, on en parle demain. Quand il va aller lire, dans son cœur va faire. Et tu vas lui demander le lendemain, c'est moi qui ai écrit le passage là. Tu es en train de faire quoi là-bas? Continuez.
En neuf.
Mais moi, je vous dis de ne pas éviter un méchant. Si quelqu'un.
Mais moi, je vous dis de ne pas éviter un méchant. Si quelqu'un te frappe sur la vie, présentez-lui au Seigneur. Amen.
C'est la base de cet esprit. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que si on leur a fait du mal, ils ne doivent pas réagir par la violence physique. Et toutes les mauvaises méditations. Il y a certaines femmes qui restent comme ça. C'est que la femme l'a marqué. Son père, pense à tout le mal qu'elle va lui faire. Prochaine fois qu'elle va venir, je lui fais, c'est le jour. Non, vraiment, qu'est-ce que quand elle va apprécier la machette. Vraiment. Il y en a beaucoup comme ça qui méditent le mal contre leur mari. Leur mari même, un satan.
Mais oui, quand vous voyez les violences que les gens ont, vous savez que ça vient d'où. Quand vous voyez une femme, vous entendez qu'une femme a brutalisé un homme, peut-être au risque de le tuer ou bien passer la tuer. Allez remonter l'histoire. Souvent, elle a été torturée, malmenée, humiliée, traînée, etc. Donc, elle a continué. Le diable a pris son terrain. Elle a commencé à développer de mauvaises pensées. Elle a commencé à penser que la prochaine fois, si vous m'attaquez, il faut que le filon ne soit pas loin. Ou bien, il faut même que j'aie déjà le casserole facile à porter, là, elle a balancé sa tenue. Ou bien, déjà, tu dois avoir une réserve de choses pour son cas. Elle pense à toutes ces choses. Or, si quelqu'un lui avait déjà dit que prie seulement, et qu'elle ait compris le secret là, que tu vas pleurer chez ton père, que mon père,
my father,
et qu'il te retourne seulement parce qu'il n'est pas loin, il est dans ton cœur, ah, ton mari là va avoir très chaud. Dieu va lui coller une de ses raclées que toi-même avec qui même tu ne pourrais pas lui coller. Donc, évitez ce mauvais chemin, le combat est d'abord spirituel. L'esprit de Matthieu 11, 22, 24, 10, verset 15, lisez Matthieu 11, 22 et 24. Matthieu 11, 22 et 24.
Matthieu 11, verset 22. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, Pire et Sidon seront ses témoins de l'ancien Jésus. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera ses témoins de l'ancien Jésus. Ce soir.
Sodome et Gomorrhe ont été traités très durement et étaient brûlés par les flammes qui venaient du ciel. Les anges qui devaient commander cette mission étaient là, c'est eux qui ont fait sortir Lot et toute sa famille. Ils étaient venus avec une mission et une destruction, au fond, ils ont un comportement qui n'est répertorié nulle part ailleurs. Les anges là ont bousculé les gens. Ils sont venus cogner à la porte de Lot. Ils ont giflé. Vous avez entendu qu'à un autre endroit, que les anges étaient violents physiquement. Ils étaient venus détruire. Donc, ils ont dit à Lot, ramasse tes choses au sort. Les premières personnes qui sont pointées, les gens ont commencé à égifler. Ils ont commencé à tuer même déjà eux-mêmes. Quand on voit que Sodome et Gomorrhe ont été détruits, il n'en restait que de l'attendre. Et que Jésus qui dit que les gens vont être traités plus durement que ça, il vaut mieux ne pas être dans le secteur. Donc, Marc 10, verset 15.
Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.
Comment se comporte le petit enfant? L'enfant croit tout, il fait confiance. L'enfant pardonne tout, il oublie tout. L'enfant n'est pas rancunier. L'enfant a le cœur léger. L'enfant aime pour rien, sans condition. Au lieu des adultes qui aiment Dieu sous condition d'avoir le bébé, le mariage, la voiture, le travail, etc. Vite. Ou bien d'autres qui viennent juste pour traiter une maladie. Donc c'est tout ce que Dieu peut apporter. Il faut entrer dans l'esprit de l'enfant. Jean 5, 19 et Jean 6, 26. Lisez ça en série. Jean 5, 19. Jean 6, 26 et Jean 8, 34. Les trois gens là. Oui, ça c'est Luc que vous avez lu. Jean 5, 19. Jean 6, 26. Jean 8, 34. Oui, c'est pourquoi je vous envoie à Jean maintenant. Jean 5, 19. Jean 6, 26. Jean 8, 34.
Jean 5, 19. Jésus répondit, reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait le Père, le Fils le fait par lui.
Amen.
Amen.
Si quelqu'un vous dit que bon, vie, Pour te délivrer, il faut que je te lave avec les feuilles de manguier. Regarde-le bien en disant que la pratique là est biblique, c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Laver avec quoi? Non, les feuilles de bananier. Ou bien pour résoudre les problèmes dans ta maison, il faut que je plante la croix là. Et c'est quel système de délivrance d'un biblique? Vous voyez les choses comme ça. C'est pourquoi plus tu connais la parole, plus tu es en sécurité. Parce que plus tu connais la parole, moins tu es malléable, moins tu es vulnérable. Tiens une référence parce que tu as vu ce que le Père a fait. Tu ne fais que ce que tu as vu le Père faire. Il y a des choses sur cette planète, vraiment c'est compliqué. C'est très compliqué. On a vu des histoires dans plusieurs pays ici où les pasteurs disent que pour avoir voilà, il faut engrossir les femmes. Non, mais vous personne qui n'avez pas les informations, on a vu ça non. Ou bien que tout le monde doit s'aligner nu devant lui. Où est le rapport entre la délivrance et la nudité alignée là? Tout le monde se met à la plage. Ou bien d'autres disent que pour vous délivrer, il va marcher sur vous. Quelle délivrance Jésus a fait en marchant sur les gens? Vous couchez vous, je marche sur vous, je cours sur vous. Tu as vu le Père faire ça? Non. C'est quoi ton appel là? C'est Jésus-Christ le Père que tu suis là-bas. Vous savez, quand les gens n'ont pas la parole, hein, ils sont pointés. Ceux à qui on fait des choses comme ça devraient savoir, s'ils avaient seulement eu la parole, que quand on leur sort un système de guérison, de délivrance, qui n'est pas bien bizarre, là, ils disent que on n'a pas vu ça dans la parole. Hein. On n'a pas vu ça. Donc vraiment, c'est des choses importantes. Quelqu'un a dit qu'il a localisé Jean 6, 26 et Jean 8, 34.
Jean 6, 26. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez. Non, parce que vous avez eu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasié.
Je préfère ne pas commenter la fin là parce que nous nous sommes entendus. Jean 8, 34. Mais vous voyez des choses extraordinaires. Les gens ont Dieu en face. Ils voient seulement Dieu comme quelqu'un qui peut leur donner à manger. Et ils prennent. Au lieu de voir que Dieu peut tout donner. J'ai certains malades, certains patients auxquels je dis souvent et des fidèles que vous que tu ne vas guérir que quand tu vas comprendre que l'essentiel est d'avoir Jésus-Christ comme ton complice. Au lieu d'être là à calculer qu'il faut que le sida disparaisse, que l'hépatite disparaisse, que tu aies fait la guerre. Non! Oublie tes besoins matériels dans la perception que tu en as. Plonge-toi, lance-toi. Il n'a pas besoin que tu réussisses tous les gens. Il veut voir l'élan. Oh, je vous dis quelque chose là. Dieu attend l'élan du cœur avec lequel tu te jettes, tu te donnes, tu t'abandonnes pour ces choses. C'est ça qu'il veut voir. Quand il voit que tu t'es donné, là alors, il donne ce que tu espérais, ce que tu n'attendais pas, ce que tu ne soupçonnais pas, et ce que même ton imagination ne pourrait jamais atteindre. Dieu est le maître des solutions parfaites. Et seul Dieu, je vous le dis à cause d'une vision que j'ai eue ce matin, seul Dieu sait quel est votre véritable statut. Quand on dit aux gens que la délivrance est un processus, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Il y a des niveaux de délivrance. Il y a les niveaux élémentaires. Mais la délivrance, on la mérite en fonction du niveau d'engagement que l'on a dans la marche avec Dieu. Beaucoup de gens qui ont déjà eu des délivrances en ont encore d'autres à avoir. Je dis, c'est le cas de 99% au moins des chrétiens. Ils ont les délivrances dans une phase initiale, mais il y a d'autres niveaux de délivrance que Dieu va vous offrir uniquement si vous arrivez à comprendre que il n'y a pas de vie hors de lui. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de vie sans lui. Il y a des niveaux, des types de délivrance. Ce n'est que Dieu qui connaît son vrai statut. Imaginez, là je vous fais une confession. Ça fait longtemps, ça fait quoi? Je sais pas, c'est un accident. Moi, envoyé, je vois dans la nuit que le Seigneur m'a fait une délivrance. C'est un accident.
Je vois comment du plastique, je sors le plastique de mon corps en grosse quantité. C'était beaucoup, beaucoup, jusqu'à ce que j'ai tout sorti. Il me dit que ça, c'est quoi? C'était délivrant, c'était fini. C'est en fonction des niveaux. Plus tu vas t'investir en moi, ça là. C'est la fille qui faisait les calculs sur toi à l'époque. Elle allait chez les marabouts. Tu peux imaginer ça. Si tu as envoyé tes chargés de feu et lumière, tu ne peux pas encore savoir qu'il y a des déchets en toi, de quelque nature que tu sois. Mais dis que si tu savais le nombre de filles qui ont pratiqué pour t'avoir dans ta vie ordinaire d'avant, tu aurais peur. Moi, si je délivre, tu traites. L'autre là me sort. Je vous dis, c'est une affaire il y a un an. Tout, il me sort ça la nuit. Je dis que c'est quoi les filles sorties de moi comme ça? Il y a des choses qu'on parle, c'est que c'est encore rien vu. Donc, je vous donne cet exemple parce que c'est une confession que je vous fais pour vous rendre compte que c'est plus vous investissez dans ma vie. Parce qu'il y a des niveaux dans votre vie où vous ne pouvez pas arriver si vous n'avez pas atteint un autre niveau de délivrance. Des niveaux de CRC. Il y a des gens acquis dans vos vies. Donc, vous pouvez émerger, grandir. Être dans les familles jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a encore d'autres niveaux où devoir atteindre tout ça, pour atteindre les niveaux-là, il faudrait que Dieu brise encore un autre niveau de barrière. J'ai vu des choses là. Vous voyez comment parler à elles, on ne peut pas imaginer pourquoi. Dieu là est vivant, plus vivant que tout. Si les gens qui avaient écrit 24 heures chrono connaissaient Dieu, je crois qu'ils auraient repensé le film là. Ils sont limités dans l'action. Ils n'ont pas compris.
Je vous dis des choses ainsi. C'est un partage pour que vous compreniez jusqu'à quel point Dieu est présent. Jusqu'à quel point il est omniprésent. Jusqu'à quel point il est omnipotent. Jusqu'à quel point il peut tout.
Et j'ai dit à quelqu'un qui est assis aujourd'hui ici que, quelles que soient les flammes d'épanouissement que tu as dans ta vie, ce que Dieu lui présente dans ta vie est toujours au-dessus de ce que toi tu espères. Parce que ta vision est limitée. Très limitée. Tu connais celui qui a fabriqué le tissu que tu portes. Mais tu as le tissu sur toi. Tu sais celui qui a fabriqué le tissu. Ce n'est que Dieu qui harmonise, synchronise, symphonise pour que tu te retrouves avec quelque chose dont tu ne maîtrises rien. Tu n'as qu'à lui faire confiance. Veux ta minime partition qui est le milliardième du milliardième de toutes les partitions que lui joue. Mais si tu ne lui fais pas confiance, tu vas commencer à gérer sur l'intelligence. Que dis-là? Non, je vais. Je vais pas comment. Ouais, que... Où est donc ta foi? Que dit la parole? Est-ce que tu sais l'importance donc à écouter celui qui a été envoyé? Celui qui dit, moi, je vous dis.
Je suis heureux parce que la richesse va être dans ce ministère à des niveaux.
Ce qui m'a montré cette nuit. Mais il m'a montré cette nuit, hein. Vraiment, le niveau d'abondance qu'il y a dans ce ministère. Et il n'a pas fait que me montrer ça. Je parle à un homme de Dieu. C'est quelque chose. Laissez-moi m'exclamer d'abord. Où me mets-je? Je pense que je dis à quelqu'un qui est vraiment bien spirituellement. Il me dit que tu sais quoi envoyer. Laisse-moi d'abord me raconter ce que Dieu lui m'a montré sur toi. Parce que je suis en train de m'étourdir là. Parce que ce que tu as vu, ce que tu as vu, c'est la même chose. Sauf qu'il faut que je vois ça. Je te dis ça sous ma forme. Il dit que parle alors, mon frère.
Il dit que Dieu m'a montré l'envoyé du Dieu créateur qui parfait son rêve ce matin. Je ne comprenais pas pourquoi je ne dormais pas. Je tombais en cuir. Et que je ferme les yeux, il me montre un général bardé de médailles.
Il dit que je demande à Dieu que. Il dit que je dormais pour. D'ailleurs, il dit pas faire, il est militaire. Comment il est habillé comme un général d'armée, avec sa poitrine remplie de médailles. Je lui réponds, mais tu ne savais pas qu'il est général chez moi. C'est un général chez moi. C'est comme ça qu'il est réellement dans votre représentation. Mais je t'ai montré pour que tu fasses une équivalence. Chez moi, il est général. Il est bardé de médailles. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Je vois des gens dans ce ministère. Le temps que 2017 finit, ils seront lieutenants, commandants, colonels, les capitaines de l'armée. Vous dites que tous les grades là, ça va grandir. Mais plus de certains qui sont même ici présents ont été recrutés dans l'armée. Ils se voient avec les armes. Il y avait les armes qui sont des amis. Vous croyez que quoi? Vous êtes sous le commandement de Jésus-Christ. N'êtes pas vous qui chantez que mon Dieu est un grand guerrier. Ok. Alors, on saisit toute l'importance de l'écoute des paroles de Jésus quand on se rappelle qu'il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Jean 15:24. En effet, Jésus-Christ est intimement lié à la parole de Dieu, qui est lui-même appelé la parole. Il est tellement lié à la parole de Dieu que lui-même, il est appelé la parole. La référence, on vous l'a déjà donnée, Jean 1:1 et Jean 1:14. Mais il y a une autre référence qu'il est bien de connaître, juste en ajout pour votre compréhension de la parole. Allez lire 1 Jean 1 et Apocalypse 19, du verset 13 à 16. 1 Jean 1, tout est vers la fin. 1 Jean 1, c'est l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier. 1 Jean 1 et Apocalypse 19, verset 13 à 16.
1 Jean 1. Il est écrit. Ceci était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous-mêmes avons touché concernant la parole de Dieu.
Ça rentre dans l'esprit de Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Que dit Apocalypse 19, le verset 13 à 16?
Apocalypse 19, verset 13 à 16. Il est écrit. Jésus le Seigneur vêtu d'un vêtement fin, descend. Son nom est la parole de Dieu.
Mm-hmm.
Les armées qui sont dans le ciel, ils fusaient sur les cheveux blancs, revêtus d'un fin blanc, blanc pur. De sa bouche sortait une épée de Dieu pour frapper les nations. Il les jettera avec une verre de fer et il coulera la cuve du sang.
On est en train de parler du second retour. Jésus-Christ revenant de façon victorieuse, habillé d'une tenue de sang, avec une langue qui est comparable à une épée, glorieux, entouré des armées célestes autour de lui. Il n'a pas fini. Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas.
Il avait deux convêtements, deux sacrifices de un nom de Christ.
Oui.
Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen.
Amen. Donc il faut connaître cette référence. La cinquième compréhension de la parole de Dieu est le récit que les prophètes, les apôtres et Jésus ont déclaré, c'est-à-dire que ce que l'on appelle les Écritures. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'un auteur écrit, Moïse a dit, David a dit, l'Esprit a dit, Dieu a dit, cela n'a aucune différence. Quand on dit que Moïse a dit, David a dit, l'Esprit a dit, Dieu a dit, en fait, ça veut dire la même chose dans le Nouveau Testament. Vous avez Acte 32, le verset 22. Vous avez Hébreu 3, le verset 7. Hébreu 4, le verset 7. Acte 3, le verset 22. Hébreu 3, le verset 7. Hébreu 4, le verset 7. Donc, ce qui a été écrit dans la Bible est donc la parole de Dieu. Sixième compréhension de la parole de Dieu. Même si elle ne se situe pas au même niveau d'autorité que l'Écriture, la proclamation de la parole par les prédicateurs ou les prophètes au sein de l'Église contemporaine peut être considérée comme étant la parole de Dieu.
D'ailleurs, vous pouvez lire ça. L'esprit de 1 Pierre. Pierre en parle, Paul aussi. Pierre en parle dans 1 Pierre 1, le verset 25. Paul a chargé Timothée de prêcher la parole de Dieu. Donc vous avez comme référence 1 Pierre 1, le verset 25, et 2 Timothée 4, le verset 2. 1 Pierre 1, le verset 25, 2 Timothée 4, le verset 2. Une telle prédication ne doit pas être indépendante de l'Écriture. C'est-à-dire quand on vous enseigne, si la parole de Dieu, il vaut mieux que ça, tu en amener à l'Écriture. Si ce n'est pas lié à l'Écriture, il faut bien se poser la question. Même dans la connaissance révélée, Dieu est capable, et il le fait, de vous ramener à l'Écriture. C'est important. Elle n'est pas isolée, elle n'est pas détachée de la parole. L'enseignement révélé lui-même reste attaché à la parole pour qu'il y ait une cohérence complète. D'ailleurs, pour déterminer si une prédication ou un message est véritablement de Dieu, il convient d'évaluer son contenu et de voir s'il est conforme à l'Écriture. Mais faites attention aux manipulations. Je vous dis ça comme ça. J'ai vu un pasteur qui fait manger à ses fidèles les herbes, le gazon là. Je ne sais pas comment il a déformé la parole de Dieu pour que les fidèles croient qu'il faut manger le gazon. Il broute comme les chèvres. Que c'est la parole de Dieu qui a dit ça. En tout cas, vous êtes formé dans ce ministère pour ne pas être manipulé. Donc, on peut ainsi questionner un individu qui reçoit une prophétie lors d'un culte d'adoration. Donc, vous pouvez lire 1 Corinthiens 14, verset 26 à 33. Non, gardez la référence, c'est pas à lui, parce qu'on a déjà lu ça ici. Paul affirme cependant que de tels messages doivent être examinés par d'autres prophètes. Il est possible, j'ai dit 1 Corinthiens 14, 26 à 33, il est possible qu'une prophétie ne soit pas la parole de Dieu. Et ça, nous l'avons déjà vu ensemble. On aura d'autres enseignements qui vont nous permettre d'évaluer cela. Et on aura un enseignement sur les faux docteurs, le moment venu. Les faux prophètes. On même qui le parlait en langue. Donc on aura le vrai parler en langue, le faux parler en langue. On aura aussi un enseignement sur les évêques. Donc tout ça va contribuer à comprendre la portée de l'enseignement et sa pertinence. Et développer chez les uns et les autres l'esprit de discernement. Il y a des gens dans ce ministère qui vont me recevoir le don de discernement des esprits. Tu ne dis pas amen. Donc ce n'est que dans un sens restreint que l'on peut affirmer que les prophètes qui s'expriment aujourd'hui le font sous l'inspiration du Saint-Esprit. Partant de l'esprit de que la révélation reçue aujourd'hui a. Parce que bon, on peut être conduit, on peut pas dire que tout prophète qui fait une déclaration sur la parole de Dieu est infaillible. Parce que je vais vous dire quelque chose. Et c'est la marche à Dieu. À cause de l'intensité de cette marche, il m'a aidé à comprendre cela. Beaucoup d'êtres humains, hommes comme femmes, dérivent à cause de leur penchant. Et je vais utiliser le langage biblique à cause des convoitises. Le message peut être perverti à cause des convoitises. J'ai vu un homme de Dieu qui avait tellement envie de se venger qu'il était pressé que Dieu lui-même se venge. C'est une convoitise d'avoir l'esprit de vengeance. Il a perverti le message qu'il a reçu. C'est vrai que l'apocalypse est lancée, mais il ne faut pas précipiter l'apocalypse. Ou précipiter les étapes de l'apocalypse. Parce que la parole dit bien, et c'est clair. Pour tous ceux qui annoncent la fin des temps. La raison, la parole dit que ce n'est que quand l'enseignement aura été diffusé dans tous les confins de la terre, qu'alors viendra la fin. Vous avez déjà vérifié que vous avez tout enseigné, que tout le monde, les hindous ont reçu la parole, les chinois du fond de l'autre endroit ont reçu la parole, les fondamentaux quoi ici ont reçu la parole, les hindous de la Damawa ont reçu la parole, hein? Les aborigènes ont reçu la parole, est-ce que les pygmées ont reçu la parole? Est-ce que ceux qui aiment crier que Allah, Wat, Bat ont reçu la parole, etc. Vous ne savez pas qu'il y a des gens parmi eux qui doivent être sauvés. Pourquoi vous dites que c'est fini alors que le compte n'y est pas? Ce n'est que lorsque le message aura été répandu sur toute la terre, et aucun homme ne peut savoir si le message a été répandu. Aucun homme ne peut évaluer si le message a été répandu dans la complétude géographique. Permettez-moi de parler le français. Ah, aucun homme ne peut évaluer, seul Dieu peut évaluer si le travail a été fait au complet, selon ses plans, selon ses voies, selon sa volonté. Et alors il décidera que maintenant c'est la fin. Il y en a qui, à cause des convoitises, ont certains passages bibliques qu'ils esquivent, même quand ils font enseigner, parce que ça fait mal. Ça les amène à se mirer. Ils tordent même la parole et l'interprétation de la parole parce qu'ils sont déjà pointés par leur convoitise. Si quelqu'un est intéressé par une petite qui a été repliée, et imaginez qu'il lui faille faire l'évangélisation, et il a déjà ciblé une femme qui a déjà été repliée, vous croyez que il va lire le passage là qui dit que il ne faut pas épouser une femme qui a été réfugiée. Quand il arrive là, il va sauter l'endroit là et traverser. Si un autre a déjà fait les calculs sur une autre dehors, il dit que sa femme le fatigue. Il cherche tous les prétextes pour la chasser, il ne voit pas. Parce qu'il n'a pas le passage de l'adultère, de l'infidélité. Il cherche un moyen, il trouve, il la casse. Parce que de toute façon, lui, il a ciblé une nouvelle femme dehors. Quand tu vas venir lui dire que la seule condition pour refuser une femme, bibliquement, d'après Jésus-Christ, non, il a dit lui-même, moi, j'ai dit lui, Dieu. C'est qu'elle s'est trompée. Il va te regarder en disant que mon frère, Dieu n'avait pas bien complété l'endroit. Donc, vraiment, il serait bien que vous soyez dans l'esprit de vous aligner parfaitement sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu, sur la pratique de la parole de Dieu. Et rappelez-vous de ces deux principes. Parce qu'il y en a d'autres que vous allez apprendre avec le temps. Le premier principe consiste en ce que vous sachiez faire confiance en Jésus-Christ, en toutes circonstances, même si cette confiance ne peut pas être comprise par votre propre intelligence. Dieu n'a pas dit que faites-moi confiance après avoir évalué si vous pouvez me faire confiance. Parce qu'il y en a qui évaluent. Il dit que je dois sauter. Pourquoi? J'ai vu une vidéo, le truc me balance ça dans la tête maintenant. C'est un homme qui est suspendu au bord d'une falaise comme ça. Il demande à quelqu'un, personne ne lui répond, aucun être humain ne lui répond. Il y a quelqu'un, il ne fait que crier, donc il cherche à se redresser. Il n'arrive pas à se redresser, il est au bord d'une falaise. Et il entend une grosse voix qui lui répond. Il lui répond, je suis Dieu. Il dit qui? Il dit Dieu. Et tu veux quoi? Il dit, fais-moi confiance, tous les anges vont te récupérer. C'est un espagnol. Il n'y a personne d'autre. Il a fait chercher un homme. Il n'y a aucun homme. Et Dieu lui parle que, sol, lâche. Je vais te récupérer, les anges lâchent. Il dit à Dieu que, il n'y a personne d'autre. C'est celui qui me parle là, qui n'est pas un homme. Moi, je vais avoir un frère. Il dit là, que je l'ai. Non, je sais que ça fait un homme. Apprenez à faire confiance en Dieu, à lui faire totalement confiance, à prendre conscience de ce qui marche avec vous. Quand vous allez prendre conscience de cela, vous allez arriver à des niveaux, ce n'est même pas souvent si long.
La durée dépend de votre capacité à vous aligner tout simplement. C'est le temps. Ce n'est pas une affaire d'est-ce que ça va prendre un an, est-ce que ça va prendre 6 mois, est-ce que ça va prendre une semaine. Aussitôt vous allez vous aligner au principe de la confiance en Jésus-Christ, il va réagir pour résoudre rapidement vos problèmes. C'est quelqu'un qui pratique, qui vous enseigne la chose, qui a vu le Dieu des démonstrations, le Jéhovah rapide. Ça, c'est le premier principe. Deuxième chose, obéissez à la parole. Ne passez pas le temps à chercher ce qui vous arrange. Si vous cherchez ce qui vous arrange, vous n'allez jamais arriver. Ce qui vous arrange, là, c'est une illusion d'optique. Parce que vous n'êtes même pas au courant de votre statut. Vous ne savez même pas quelle est votre vraie position. Vous ne savez même pas quel est le plan de Dieu dans votre vie. Vous ne savez même pas quelle est votre identité en Dieu. Vous ne savez même pas ce qui vous réserve. Vous ne savez même pas où vous en êtes. Une de mes filles m'a demandé ici un jour, parce qu'elle était pressée, elle me demande si est-ce que j'ai déjà un bon niveau. Si le plan spirituel a un marque à elle. Je lui ai donné une réponse qu'il a désactée. Mais elle n'a pas su jusqu'à quel point c'était de l'humilité de lui dire, comme je lui ai dit. Je lui ai dit, ma fille, moi qui suis l'envoyé du Dieu créateur, je ne sais pas quel est mon niveau. Mais je ne sais pas quel est mon niveau. Dieu m'a enseigné que la marche avec Dieu est une échelle infinie. Tu peux connaître au mieux là où tu as commencé, encore que tu ne sais même pas, puisque lui a les plans sur toi avant ta conception. Donc tu ne sais même pas où tu as commencé. Tu peux savoir à un endroit où ta conscience a permis d'évaluer que Dieu est là. Mais il n'a pas attesté ton niveau, puisque lui seul sait où tu vas, où il t'amène. Et lui seul sait quel est le plan de gloire, de fertilité et de prospérité qu'il a amené, qu'il a programmé dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est obéir à la parole. Et n'oubliez jamais que Dieu considère qu'on l'aime uniquement parce qu'on a mis en pratique la parole, parce qu'on a obéi à la parole. Ainsi s'achève le tout premier enseignement du mercredi. Applaudissements.